Chers amis de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre studio à Chartres. Nous allons parler aujourd'hui d'une association particulière, association de soutien à l'armée française, ASSAF. Nous avons avec nous aujourd'hui quelqu'un qui s'en occupe ici dans le département Eure-et-Loire, Pierre Colson, que je vais saluer tout de suite.
Bonjour. Merci à tous, bonjour, félicité.
Évidemment, parler de l'armée sur une radio chrétienne, cela peut nous paraître surprenante, mais n'oublions pas que... au Moyen-Âge, il y avait les Templiers qui sont aujourd'hui glorifiés, moins pour leur action militaire que peut-être pour leur talent de banquier. Mais il y avait les chevaliers, l'ordre des chevaliers qui était béni par l'Église. Et Saint Bernard a créé les règles de l'ordre des Templiers d'ailleurs. Et ces chevaliers ont été en fait créés, ou la chevalerie a été créée pour soulager les paysans qui avaient l'obligation de l'os, de participation aux actions militaires. Et n'oublions pas les croisades. N'oublions pas les croisades qui font partie de l'histoire de l'Église, que l'on n'appelle pas d'ailleurs croisades pour les Ottomans. Ce sont tout simplement des guerres menées par les Francs. Et d'ailleurs, dans les textes anciens, on parle plutôt de pèlerinage, voyage à Jérusalem. Donc ouais, l'armée fait partie de l'histoire de l'Église aussi. Ouais. Donc c'est tout à fait à juste titre que vous allez nous parler de votre carrière militaire, parce que ça nous intéresse aussi, 34 ans de carrière militaire. Et plus récemment, vous avez dirigé l'ONAC, vous allez nous expliquer tous les sigles, ici en Eure-et-Loire, pendant plus de 13 ans, vous avez survécu à plusieurs préfets. Et donc, vous êtes quelqu'un de la continuité. Et à ce titre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voulez bien présenter peut-être l'ONAC d'abord,
oui, l'ONAC VG, si vous permettez, moi, oui. Je suis heureux et honoré d'être parmi vous. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit concernant l'armée. Effectivement, maintenant, les militaires essaient de continuer à porter ces valeurs chevaleresques. La différence avec les Templiers, c'est qu'en revanche, là, ils n'ont plus d'argent. Hein. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre problème, je dis à titre personnel. Et il faut savoir que, bon, ayant l'honneur d'être Saint-Cyrien, il y a une statistique qui montre que quasiment dans chaque promotion, il y a un Saint-Cyrien qui rentre dans les ordres. Donc vous voyez le lien, l'aspect spirituel que les uns et les autres, que beaucoup d'entre nous portons, plus ou moins bien, je le fais modestement, on a aussi des Saint-Cyriens qui sont entrés dans les ordres ou qui ont embrassé la vocation sacerdotale.
Vous ne risquez pas de le faire puisque vous êtes marié et père heureux de deux enfants. Oui. Et votre épouse aussi est militaire.
Ah, je crois que vous alliez me demander s'il était dans la religion. Non, c'est une ancienne militaire.
Être marié avec un militaire, je pensais déjà
à un sacerdoce.
Un sacerdoce, exactement. Bon, très bien. Donc, vous avez fait cette carrière. Pourquoi est-ce que vous avez embrassé la carrière militaire? Est-ce que dans vos familles,
je pense que auprès de vous et de vos auditeurs, le mot que je vais employer a une résonance toute particulière. Je pense que je suis convaincu que c'est une vocation, hein, du latin vocatum. C'est-à-dire que j'ai été appelé par cette carrière dans la mesure où je n'ai pas de militaire dans ma famille. Je suis fils d'enseignant. Et bon, mon père était officier de réserve, ce qui m'a quand même un peu influencé parce que j'avais de l'admiration pour son engagement bénévole, entre guillemets. Mais bon, voilà, j'ai senti l'attrait. Pour tout vous dire, initialement, je pensais m'orienter plutôt vers la médecine militaire parce que j'étais attiré par l'aspect médical, scientifique. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert qu'il y avait une branche du concours d'entrée à Saint-Cyr qui était ouverte à ce qui m'intéressait. Donc, voilà.
C'est pas l'attrait de l'uniforme, comme c'est le cas pour les enfants qui veulent devenir pompiers.
Non, c'est... j'ose pas dire, parce que ça pourrait paraître grandiloquent, présomptueux, l'intérêt d'apporter quelque chose aux autres, de se dévouer pour les autres. Et c'est le fond de la vocation militaire, c'est-à-dire être au service de la communauté, de nos concitoyens... de porter les armes pour les autres.
Alors, rétrospectivement, avec toutes les actions que vous avez menées, peut-être vous pouvez évoquer quelques moments les plus agréables ou un moment peut-être le plus éprouvant parmi ces actions qui vous ont mené aussi en Allemagne.
Oui, allemand. Je me débrouille en langue allemande, qui était, je ne sais pas le dire, ma première langue au lycée. Mais oui, j'ai fait pas mal. J'ai un parcours assez atypique. Mais quel est le militaire qui n'a pas un parcours atypique? Et j'ai de très, très bonnes expériences. J'ai chaque fois servi dans des unités d'appelés, puisqu'à l'époque, le service national existait. Et vraiment, c'est le plus gratifiant, parce que je ne dénie pas quoi que ce soit à ceux qui sont dans des unités professionnelles, mais le contact des appelés nous permet d'abord de rester jeunes en permanence, parce qu'il y a un renouvellement, et on se rend compte que la jeunesse française, quoi qu'on en dise, a un grand cœur. Simplement, il faut savoir travailler, œuvrer avec eux, expliquer. Et quand on explique, quand on obtient l'adhésion, c'est formidable. Et j'ai d'excellentes, comment dirais-je, expériences et souvenirs avec mes appelés. J'ai d'excellentes et d'autres souvenirs lorsque j'ai eu l'honneur d'encadrer des écoles. Puisque je suis retourné à Saint-Cyr comme à l'encadrement, et j'ai été pendant 4 ans à un moment donné à l'école polytechnique, à l'encadrement bien sûr. quand on connaît mon niveau en maths, il n'y a pas de doute quant à la raison de ma présence. Ça ne pouvait être que de l'encadrement, pas comme élève. Et là aussi, c'est très très intéressant de voir cette population particulière aussi.
Oui, effectivement, parce que l'armée, d'abord, c'est la protection du pays, oui. La défense du peuple auquel on s'associe. Et, aujourd'hui, évidemment, l'armée française mène des actions dans différents pays, aussi pour maintenir la paix. Est-ce que vous étiez aussi engagé ou associé à des actions en Afrique, par exemple?
En Afrique, j'ai fait des petits passages, mais c'est surtout dans les Balkans et en particulier au Kosovo que j'ai eu à œuvrer dans ce domaine-là, bon, dans des missions un peu particulières, mais là aussi, l'armée française, quand elle est à l'extérieur, en France, non, sur le territoire métropolitain, n'en parlons pas, mais elle se distingue des autres armées, je pense, par sa recherche de la connaissance de la population locale et de se mêler. Alors, souvent, ça nous fait bondir un peu nos alliés, hein, qui, comme disait la chanson, se déplacent généralement 4 par 4 armés jusqu'aux dents. Et nous, on essaie d'aller vers la population, d'aller prendre un café aux terrasses de café, et on essaie de connaître, d'apprendre, ne serait-ce qu'aussi de baragouiner quelques mots pour établir le contact. Et c'est très, très enrichissant aussi, quand on fait abstraction du contexte, parfois ou souvent un peu dangereux ou autre. Mais voilà, cette vie militaire, pour moi, était une source d'enrichissement. Alors, comme tout le monde, il y a des moments où ça a plus ou moins bien marché. Mais c'est une source d'enrichissement parce que c'est le facteur humain qui prime. Être au contact, essayer d'apporter du temps. Alors, il ne faut pas rembobiner le film, hein, mais du temps du service national. On nous disait, oui, bon, ça coûte cher et autres. Mais j'étais persuadé du lien social qu'il représentait, du brassage social qui existait, et puis du fait qu'on pouvait apporter quelque chose. Et si dans un contingent, on apprenait à lire et écrire qu'à une seule personne, un seul homme, c'était déjà ça. Mais ça arrivait, il y avait plus que ça. Et voilà, c'est ce qui était enrichissant dans cette carrière, c'est l'aspect humain, bien entendu.
Voilà, le service national, sans vouloir l'appeler de mes voeux aujourd'hui, dans un contexte complètement différent, c'est une école de vie. Et beaucoup d'hommes, j'imagine, ont appris à faire leur lit pendant leur service militaire. Donc c'était vraiment une nouvelle manière de vivre. Et ça durait longtemps, 2 ans à l'époque.
Ensuite, ça a été 10 mois. Au pic, ça a dû durer 3 ans. Hein. Je passe sur la période de l'Algérie, où on envoyait le contingent, on a allongé on a même rappelé des anciens appelés, on a rallongé la durée de service militaire, mais quand j'y étais, c'était des durées de 12 mois, puis 10 mois, mais au-delà du lit, c'est vrai, c'est le symbole, c'est beaucoup apprenaient un métier.
Et vous avez dit que c'était une colle, un brassage. C'est vrai qu'on avait coutume, si je me rappelle bien, d'envoyer les petits Bretons très très loin, peut-être en Allemagne ou dans d'autres régions. Est-ce que c'était pour leur faire connaître d'autres régions ou pour les éloigner de leur famille, parce que c'était un peu systématique, non ?
Ni l'un ni l'autre, en général. Il y a deux types de brassage. Il y a le brassage social, c'est-à-dire le bûcheron qui rencontre le licencié de lettres. Ça, c'était assez extraordinaire. Et puis le brassage, alors, la technique dite de la poussette. C'est-à-dire qu'effectivement, le breton, on l'envoyait vers l'est. Celui du Sud, on l'envoyait vers Lyon ou vers Paris, mais ça tient simplement au contexte géostratégique, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'ennemi, c'était le pacte de Varsovie, c'était de l'autre côté du rideau de fer, d'où notre implantation en Allemagne aussi, avec les suites de la Seconde Guerre mondiale. Et nos garnisons, finalement, elles étaient au nord, à l'est. Et il y avait bien sûr disséminés sur le territoire métropolitain des régiments et autres, mais la vocation c'était d'aller vers l'est. Et donc, grosso modo, en schématisant, en Bretagne il n'y avait pas de régiment, mais il y en avait à Paris ou il y en avait à Verdun. Donc on poussait. À Marseille ou à Arles il y avait pas de régiment, mais il y en avait à Lyon, il y en avait à Paris, et Paris il y en avait à Lille. Mais en principe, autant que je me souvienne, un appelé ne pouvait pas être à plus de 250 km de chez lui. Bon, c'était une histoire de liaison par le train et des choses comme ça. Voilà. Voilà, d'où
c'est bien. C'est une question qui m'est venue à l'esprit parce qu'elle me tarabiscotait depuis quelques années déjà.
Question pertinente, comme toutes les questions que vous vous posez.
Alors, comme vous aimez la musique, on va faire une toute petite pause musicale et après on reprendra.
Très bien.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now
amis de Radio Grand Ciel, nous sommes avec Pierre Colson, avec nous aujourd'hui dans le studio. Il nous fait l'amitié de venir, une grande carrière militaire. Il a à cœur de transmettre la mémoire. Et cher Pierre Colson, vous rédigez une lettre d'information qu'on peut appeler une chronique mémorielle.
Oui. Pas d'ambition.
Je suis inscrite sur votre lettre d'information et j'apprécie surtout, à côté de toutes les informations que vous donnez, dans ce style des éphémérides, le saint du jour. J'aime beaucoup que vous rappeliez les saints du jour c'est très agréable. Ça permet de penser aux autres, qui portent le nom, d'apprendre des histoires. Et avant
c'est un peu une position rebelle, hein, si vous voulez, par les temps qui courent, parce que sans être un exemple sur le plan de la pensée religieuse, je tiens à rappeler que la France a des origines religieuses. Hein, comme disait le général de Gaulle, la France est chrétienne, la République est laïque. Mais donc, il faut assumer. Je suis chrétien à tendance catholique. et voilà, il y a des saints, on essaie d'expliquer. Alors, voilà.
Donc, vous ne suivez pas le mouvement de la météo à la télévision qui laisse tomber le mot saint.
C'est scandaleux.
Voilà, ou tel voilà. village qui a fait tomber le thé,
oui,
pour appeler son village Saint-Belle, comme s'il était en bonne santé.
Ou qui enlève les statues de saint.
Voilà. Alors, nous sommes sur une radio, justement, chrétienne, et vous avez rédigé aussi un vademécum pour les cérémonies de mémoire. C'est une sorte de liturgie mémorielle aussi. Parce qu'il y a tout un...
Un cérémonial.
Et il y a un cérémonial. À l'église, il y a un cérémoniaire. Et voilà. Dans l'armée, il y a un cérémonial à respecter.
Enfin, ce vademécum, simplement, sa modeste ambition, il y a quelques années, c'était à la demande d'un préfet, d'ailleurs, c'était de rappeler quelques règles qui, à mon avis, sont nécessaires dans leur respect pour montrer que c'est l'hommage qu'on porte aux gens ou les cérémonies qu'on organise. Eh bien, elles doivent être empreintes d'une certaine solennité. J'avais tendance à dire un peu brutalement que soit on fait une cérémonie et on essaye d'y mettre les règles, pour la tenue aussi, le comportement, pour montrer que c'est pas le marché aux puces ou une démonstration anodine, mais c'est vraiment une marque de respect, un hommage rendu. Soit on ne la fait pas. Je le disais à des gens qui voulaient se faire remettre des médailles du hockey. Mais alors, bon, il y a une tenue particulière et autre. Quand j'ai vu arriver un jour quelqu'un quasiment en tricot de corps et en tongs pour se faire remettre une médaille. voilà, bon, non. Donc il y a des petites règles.
Je suis tout à fait de votre avis. C'est très beau de garder justement en mémoire une très longue histoire des manifestations qui doivent avoir leurs règles aussi. Et c'est tant mieux. Donc vous avez vos hymnes, vous avez vos mélodies, on ne déroge pas. Il y a un protocole à faire.
Et puis, oui, des comportements. J'ai eu l'occasion dernièrement de rappeler à certaines personnes que, par exemple, quand il y a la Marseillaise, c'est une réunion mort, on se découvre pour les hommes. Qui porte un chapeau, ce qui m'a permis de rappeler aussi que quand un homme à l'époque actuelle, quand on pense tout de suite à mettre une casquette sur la tête, c'est la grande mode, hein, même quand on a 80 ans, eh bien, quand on s'adresse à une femme, on se découvre.
Donc, dans le mot liturgie mémorielle, ça colle de plus en plus, parce que quand on va dans une église, un homme se découvre, pareil. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir que l'armée et que le protocole a gardé un certain nombre de règles qui allaient de soi dans une société qui avait encore des traditions, voilà. Justement.
Absolument.
Avant 68, un homme qui portait un chapeau se découvrait la tête pour
une
dame.
C'était évident, au passage d'un corbillard, d'un drapeau, Bon, enfin.
Et ce que je ne savais, enfin, ce que beaucoup de personnes ne savent plus, quand on joue la Marseillaise, on se met debout.
Oui, normalement.
On se met debout. C'est vrai que.
On arrête de circuler.
Voilà.
Que ce soit en voiture ou en poussette.
Donc la mémoire, la transmission de la mémoire, cela vous tient à cœur et aujourd'hui vous portez. Excusez-moi, chers auditeurs, il y a un détail vestimentaire que vous ne pouvez pas voir, mais moi que j'ai sous les yeux. Vous portez une cravate avec une raie d'escarboucle, c'est-à-dire des flèches qui partent dans différents sens, qui est l'emblème de l'association de soutien à l'armée française, l'ASAF, dont vous êtes responsable dans la section Eure-et-Loir.
Oui, est-ce que... le délégué départemental, puisque l'association est nationale, mais elle a des délégués dans tous les départements en principe. Alors j'ai pris la succession d'un garçon qui est décédé il y a un an et demi, auquel je rends hommage. C'était Jacques Mathieu. Et la place était vacante. Au moment où j'ai quitté la direction du service départemental de l'Office national des anciens combattants victimes de guerre d'Eure-et-Loir.
Voilà, ça c'est l'ONAC, voilà, parce qu'on voulait expliquer le sigle.
On m'a approché en me disant « Écoutez, est-ce que ça vous intéresserait ?» Bon, mes convictions étaient en harmonie avec cette association. En plus, le fait d'avoir été militaire un certain temps et d'avoir travaillé la mémoire pendant une autre période, finalement, je me trouvais à la convergence de mes deux vies précédentes et en harmonie avec certaines convictions. J'ai accepté cette responsabilité.
Alors nous allons mettre sur le site internet la fiche récapitulative de l'association qui veut soutenir tous ceux qui ont servi ou servent la France.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'actions concrètes?
Alors,
c'est vrai que vous avez aussi œuvré, je suppose que vous continuez, pour le Bleuet de France.
Oui, alors le Bleuet, je tiens pas trop à vous en parler parce que c'est plus mon job, je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de ma successeur.
Non, non, mais vous pouvez en parler. Oui, nous sommes
si
en novembre où l'Église commémore les
Anne,
morts.
Si tu nous entends. mais si vous voulez, et en plus, le Bleuet, sa gestion a changé ces derniers temps. L'ONAC fait partie, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, fait partie de la fondation qui gère maintenant le Bleuet, mais elle n'en a plus la responsabilité, notamment pour les quêtes. Mais ça, je suis mal placé pour vous en parler, je ne suis pas au fait de la question.
Mais ça, c'est une action concrète, justement, que l'argent sert ensuite à soutenir des victimes
de
guerre et les familles.
Les victimes à la fois de militaires qui ont été tués, blessés au combat, mais aussi de ceux qui, les victimes d'attentats civils, les victimes civiles d'attentats. Ça, c'est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui a le suivi des familles ou des victimes elles-mêmes quand elles sont handicapées et autres pour leur apporter une aide, notamment matérielle. Ça, c'est évident. Bon, l'Association de défense de l'armée française, elle a effectivement vocation à soutenir les militaires engagés ici ou là, tant à l'étranger que dans les opérations extérieures, les OPEX, que sur le territoire national avec l'opération Sentinelle, qu'on voit patrouiller d'ailleurs dans Chartres aussi. Mais ce soutien, il se tourne aussi vers les élus, vers les gouvernants et autres, pour leur rappeler qu'il y a des efforts à faire, que lorsqu'on voit éventuellement des campagnes ou des articles qui voudraient déstabiliser l'armée française, il faut réagir et qu'il y a des gens qui sont là pour veiller au grain, si j'ose dire.
Alors, on va faire une petite pause musicale, une musique qui vous est chère, et après, vous allez pouvoir nous parler plus en détail, effectivement, de votre action concrète et si d'autres personnes peuvent peut-être y adhérer.
Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé dans un lac du Connemara. John Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara.
Cher Pierre Colson, vous voulez nous parler, et moi je vous invite justement à nous parler de l'association de soutien à l'armée française qui vous est chère, parce que après avoir fait une longue carrière militaire, votre but principalement maintenant c'est de garder vive la mémoire et de la transmettre surtout aux futures générations. Et c'est une tâche très, très délicate, parce que notre société elle est démilitarisée, on ne voit pas. En dehors des sentinelles, on ne voit plus les militaires dans les rues, parce qu'avant la Première Guerre mondiale, le corps de l'armée faisait partie du corps de la société, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu séparé.
Oui, c'était volontaire, c'était politique, ça remonte au moment de la guerre d'Algérie, où le fait de voir des militaires dans les rues, ça éveillait chez certains des craintes et un certain nombre de choses, donc il avait été dit que l'armée... Et alors que l'armée est de plein pied, c'est le citoyen en uniforme, c'est de plein pied dans la société française, elle est là pour la défendre, et il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas, elle aussi, sa place, en sachant au passage que les militaires ont été les derniers à avoir le droit de vote, après les femmes, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avant, ils ne pouvaient pas voter, je présume que...
Durant leur carrière.
Oui, en tant que militaire, ils ne votaient pas. Et donc, il est nécessaire de défendre cette institution qui porte les armes pour le reste de la nation, qui va où le politique lui demande d'aller. Et qui le fait. Alors on dit, oui, mais on entend ici ou là, quand il y a un mort au combat, oui, mais c'est son travail, il est fait pour ça, grosso modo. Non, quand on s'engage, je suis bien placé pour le dire, on ne s'engage pas pour se faire tuer ou pour ou se faire blesser la chair ou l'âme. On s'engage pour défendre les valeurs de la France. Mais on sait, bien sûr, et on hypothèque notre vie, on sait qu'au bout du chemin, il peut y avoir la mort ou la blessure. Et je pense que ces valeurs-là, qui sont les valeurs de la France, il faut être vigilant, les défendre et éviter qu'elles soient galvaudées ou battues en brèche.
Donc, parmi les tâches de cette association, figure celle de sensibiliser les dirigeants politiques et différents acteurs de notre société civile.
Alors c'est une association qui a été créée en 1983. Et effectivement, c'est d'aller auprès des acteurs de la société, des élus, donc y compris localement, pour leur dire voilà, les armées françaises, les forces armées ont des missions qu'il faut soutenir. Alors aussi bien par le vote de budget que par la promotion de ce qu'elles font et la présentation de leur mission et rappeler que même si elles sont très très loin, ça a été le problème de la guerre d'Indochine, eh bien elles œuvrent pour la défense des valeurs de la France et pour préserver notre liberté, parce que c'est ça le fond de la question.
Qui peut adhérer à votre association qui toute personne, donc actuellement personne. Vous avez 3500 adhérents, oui. Et qui représentent 100 000 personnes, oui. mais toute personne
toute
désireuse,
personne
de,
désireuse de soutenir l'armée française, oui. Ses actions, on diffuse un petit bulletin, enfin un petit livre assez important régulièrement. Ce n'est pas une association uniquement d'anciens militaires qui se regardent le nombril, hein, ou qui brandissent encore un oriflamme, mais la preuve, c'est qu'à l'heure actuelle, le président national est un ancien ambassadeur. Certes, l'association a été créée par un ancien général, mais voilà. Donc tout le monde peut adhérer en voulant déjà, en adhérant, témoigner de l'intérêt qu'on porte à l'armée française et à ce qu'elle fait.
Donc, est-ce qu'il y a une cotisation à payer, peut-être ?
Oui, bien sûr.
Nonobstant la cotisation à Radio Grand-Ciel, parce que nous sommes aussi une radio associative.
Mais vous faites bien de le rappeler.
Parce qui défend des valeurs chrétiennes.
Voilà, à l'heure actuelle, évidemment, le bénévolat est une chose, mais si on veut faire avancer, notamment par la publication de revues et tout comme ça, il faut un minimum de choses. Et je crois que la cotisation... Alors, vous voyez, je suis pas épicier, donc je ne sais pas, puisque ce n'est pas moi qui la reçois, mais c'est le siège. Elle doit être de 30 euros, y compris l'abonnement à la revue qui paraît trimestriellement. Et la revue, c'est pas un feuillet. Hein, là, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais c'est un
petit livre
très intéressant,
très consistant,
qui traite de problèmes géostratégiques, philosophiques, de témoignages.
Très bien, bah on peut peut-être mettre toutes ces informations sur le site internet de la radio afin que les auditeurs puissent les retrouver. Donc merci beaucoup, cher Pierre Colsan, pour votre présence et la présentation de l'ASAF, cette association de soutien à l'armée française. Et rappelons à nos chers auditeurs que l'action militaire fait partie de notre histoire aussi, transmettre la mémoire de tout ce que l'armée a pu faire de bien, à côté des choses qui peuvent parfois déraper. Malheureusement, c'est le propre de l'homme. L'Église n'a jamais hésité à exhiber l'action militaire. Pensez aux vitraux de la cathédrale de Chartres. Oui. Nous avons les chevaliers dans le cœur, dans les rosaces du cœur. Et puis la broderie de Bayeux, ou sur un tapis, une broderie de 60 mètres, une tapisserie de 60 mètres de long. On étalait surtout l'action des soldats entre Harold et Guillaume. Bon, bah, très bien, merci beaucoup.
Merci
beaucoup pour votre présence.
Je
à très bientôt,
très
heureux. Bonne journée.
Je remercie la technique qui m'a supporté.
Simon
aussi.
Qui est avec nous et qui assure la bonne qualité. Merci beaucoup.